Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Coup d'État au Mali, pourquoi une loi d'amnistie en faveur des putschistes? C'est ce thème qui sera débattu au cours de ce grand dialogue. Les auteurs des coups d'État du 18 août 2020 et du 24 mai 2021 sont amnistiés. Le Conseil national de transition a voté deux projets de loi dans ce sens la semaine dernière. Des partis politiques protestent contre cette amnistie, estimant que le CNT n'a pas la légitimité d'accorder un pardon au nom du peuple malien. Que pensent les organisations de la société civile? Cette réflexion est-elle logique? Un pardon aux auteurs des putschs ne risque-t-il pas de légitimer les coups d'État dans le pays? Quelle punition faut-il pour les putschs? Studio Tamani pose donc le débat avec ses invités. Cheikh Oumar Sidi Bé, vice-président du Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali. Fousseini Diop, responsable programme gouvernance et engagement civique à l'AGICAD. Ibrahim Ben Mamata Touré, juriste. Je suis Imran Akil Omaïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Ibrahim Mamata, dites-nous, quelle définition peut-on donner à une amnistie?
Merci pour la question, mais avant la question, je dis bonsoir à tout le monde et merci pour l'invitation. Donc, l'amnistie est un acte législatif tendant à couvrir ou à effacer en quelque sorte des crimes ou des condamnations perpétrées. Voilà très brièvement ce que l'on peut dire de l'amnistie. Elle est une loi généralement qui intervient pour généralement insuffler le pardon. Le pardon à travers des frustrations qui peuvent naître après les forfaits crimes commis, pour que le pays puisse être en harmonie. Voilà un peu pourquoi les conditions dans lesquelles elle peut intervenir.
Monsieur Sidibé, est-ce que vous avez la même lecture de définition du système d'amnistie?
Absolument. Évidemment, une loi d'amnistie, par définition, c'est une loi qui accorde le pardon à des personnes ou à un groupe de personnes qui, à un moment donné de l'histoire, peuvent être amenées à poser des actes répréhensibles, donc condamnables par la loi. Donc, dans les soucis de la quiétude et de la paix sociale, les autorités peuvent être amenées à envisager une telle démarche pour que, après, comme il l'a dit mon co-débatteur, pour qu'après il n'y ait pas de friction à ce niveau. Donc c'est juste pour effacer, si vous voulez, en quelque sorte, des crimes, des faits perpétrés à des occasions données.
Vous êtes dans une organisation qui défend l'intégrité du territoire, la sauvegarde de l'intégrité du Mali. Dites-nous pourquoi une amnistie en faveur de ceux qui sont impliqués dans les coups d'État du 18 août 2020 et du 24 mai 2021?
Bon, je voudrais signaler que ce n'est pas la première fois que une loi de ce genre est prise en faveur des gens qui viennent accidentellement aux affaires. Vous savez, tout coup d'État est la résultante d'une certaine situation de frustration généralisée, et face à laquelle situation généralisée, les militaires le plus souvent interviennent pour abréger la souffrance des populations, mais en même temps créer les conditions d'un nouveau départ pour que le pays puisse mieux respirer. Je crois que c'est dans ce contexte que les coups d'État du 18 août et du 24 mai sont intervenus. Et je pense qu'en son temps, ce n'était pas la meilleure des solutions, mais c'était quand même une solution pour éviter à notre pays d'aller dans un chaos. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait eu déjà beaucoup de morts, des massacres même, si on peut l'appeler ainsi. Donc le pays était presque rendu ingouvernable. Donc suite à des situations comme celle-là, évidemment, l'armée est là en étant le dernier rempart, intervient pour faire taire les hostilités, mais en même temps permettre au pays de repartir sur des bases plus saines. Je crois que c'est ce qui explique la loi d'amnistie prises en faveur de ceux qui ont commis ces actes-là. Et je pense que la loi, puisqu'elle est faite pour être exécutée, dans ce cas précis, je pense qu'elle se justifie, cette loi d'amnistie, en faveur des militaires.
CDB estime que cette amnistie se justifie. Vous êtes dans une organisation qui défend la sauvegarde notamment de la démocratie participative et inclusive. Est-ce que pour vous, cette amnistie est-elle logique?
Pour moi, on ne peut pas parler de logique, dans le sens où nous sommes dans une démocratie. Et la démocratie voudrait bien que chaque acteur joue pleinement son rôle. Déjà, je pense qu'il y a déjà contradiction. Je pense que les actes qui ont été posés le 18 août, les premiers acteurs même ont dit qu'ils n'ont pas fait de coup d'État. Et moi, en tant que membre d'une organisation de la société civile, je m'étonne déjà du fait qu'on vote une loi qui les amnistie. Donc, du coup, il y a contradiction à ce niveau. Deuxièmement aussi, je pense, les événements aussi du 24, ils ont aussi dit que c'est pas aussi un coup d'État. Ils disent qu'ils ont mis hors de leur prérogative le président de la transition et aussi le premier ministre. Mais en même temps, on voit que cette loi aussi prend en compte les événements du 24. Au fait, cet état de fait nous montre tout simplement du fait que il y a une justice taillée sur mesure. Au fait, si nous voulons vraiment et réellement que notre démocratie avance, il faudrait bien que, comme je l'ai dit, que chaque acteur puisse jouer son rôle. Il a parlé des événements du fait que le pays était dans une crise. Voilà, personne n'a nié cela. Mais c'est pas à l'armée de jouer à l'arbitre. Et à chaque fois, nous avons vu, avant le 18, nous avons connu un coup d'État en 2012. Il y a une loi d'entente qui est venue qui a aussi amnistié certains qui ont relaxé ces putschistes. Et je me demande, et je parle sous le contrôle de mon co-débatteur, le juriste, par rapport à l'hierarchie des normes, notre constitution du 25 février 92 condamne le coup d'État et dit que le coup d'État est un crime imprescriptible. Donc à mon avis, quelle que soit la loi qu'ils vont prendre, pour moi, le peuple malien ne va pas leur pardonner, parce que c'est inadmissible ce qui se passe dans notre pays. Donc du coup, moi quand même, je ne suis pas en faveur de cette loi, et pour moi aussi, cette loi va donner des précédents pour encore faire en sorte de porter atteinte à notre démocratie. Pour moi, l'amnistie vient après savoir du fait que des gens qui ont été acteurs de certains faits puissent assumer, puissent être condamnés ensuite, qu'on puisse aller vers la réparation. Mais on voit que c'est quelque chose qui est taillé à la mesure pour pouvoir faire passer vraiment certains acteurs paisiblement face à cette situation.
La JICAD estime que le peuple ne va pas pardonner aux putschistes. Pour vous, cette amnistie est-elle logique du point de vue juridique?
Du moment où vraiment mon co-débatteur a eu à bien l'expliquer, la logique n'est plus dans l'affaire. Du moment où la contradiction se pose entre, c'est-à-dire une violation flagrante de la Constitution, qui est la norme supérieure, dans son article 121 qui élève le coup d'État comme crime imprescriptible. Donc une loi qui intervient pour essayer de geler ces crimes, ces forfaits ou ces poursuites ne colle pas. Dans la mesure où les acteurs eux-mêmes n'ont pas assumé leur coup d'État, je me dis que nous sommes dans une loi d'amnistie qui ne couvre pas même le coup d'État, mais d'autres infractions. Parce que la loi d'amnistie elle-même, si nous la prenons, ne nomme pas l'acte comme coup d'État. Dans l'énoncé, on voit que c'est l'amnistie sur les faits liés à la démission d'Ibeka. Bon. Partant de ce postulat, moi je me dis qu'il y a en quelque sorte de l'amateurisme même dans cette loi qui ne couvre pas du tout l'infraction coup d'État. Seulement aujourd'hui, certains ont le pouvoir, donc c'est une justice qui va dans un sens, le sens du maître du jour. Demain, le pouvoir peut changer et un juge peut s'autosaisir de cette question, ou quelqu'un peut porter plainte pour coup d'État. Or, dans l'énoncé même de la loi d'amnistie, il n'est nullement écrit coup d'État. Des faits, quels faits? Les faits sont imprécis et nous sommes en droit pénal. Le droit pénal, c'est la précision. La loi est stricte, il n'y a pas d'interprétation. Donc, on se colle à l'énoncé des lois. Donc, dans la posture de cette loi, je me dis que c'est juste la version de ceux-là qui ont perpétré le coup, et essayant de se couvrir, mais en réalité, ça ne les couvre pas.
Dans ce cas de figure, à quel moment faut-il accorder une amnistie pour les putschistes, puisque le Mali a connu deux coups d'État en une année?
Bon, généralement, les conditions d'amnistie interviennent dans la recherche d'une paix, d'une quiétude, d'une stabilité. En la forme aujourd'hui, l'idée de cette amnistie est née d'où? De la charte, des assises de la charte, des journées de concertation de la charte. La charte a prévu que le CNSP puisse jouir d'une loi d'amnistie. Maintenant, est-ce que c'est tout le peuple malien qui a décidé cela? Nous savons comment ces journées ont été faites. Il y avait une grande polémique autour de la question. Donc, on est en train d'amener des gens vers des faits accomplis. Nous n'avons pas tellement le choix. Ils ont des armes, ils ont le pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Donc nous assistons à un fait accompli. Maintenant, dans la forme, c'est contestable. Rien à dire. Et c'est pourquoi, au tout début de la question, la notion de pardon du peuple malien n'est pas admise, parce que les gens ne sont pas d'accord.
D'accord. Monsieur Sichek Oumar Sidibé, vous êtes du Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali. Les deux précédents intervenants disent que cette amnistie n'est pas logique, et vous estimez qu'elle est logique. En quoi est-elle logique et peut-elle s'expliquer?
Bon, je pars simplement du fait que il parle de précédent, ça va servir de précédent, non? Il y a eu déjà d'autres coups d'État. Mais je ne crois pas qu'en République du Mali, il n'y a jamais eu réparation ou justice suite à un coup d'État. Donc, ça ne va pas commencer par ceci-là. Mais ce que je sais, c'est que l'amnistie se justifie simplement par le fait que ceux qui sont intervenus sur le champ politique le 18 et le 24 mai, s'ils ne l'avaient pas fait, peut-être que le pays serait dans des situations beaucoup plus compliquées aujourd'hui. Donc je dis, je répète, ils sont venus abréger la souffrance des populations parce que les différents mouvements qui étaient en cours n'étaient plus loin de rendre le pays ingouvernable. Donc cette situation ne pouvait pas perdurer. Et l'armée, je dis encore une fois, l'armée reste le dernier rempart quand le pays est menacé, aussi bien sur le plan sécuritaire que même sur le plan politique et institutionnel.
Donc pour vous, cette amnistie est salutaire?
Oui, elle est salutaire, et le peuple malien l'a applaudi des deux mains. Et je le dis, je paraphrase un peu le président Tété, un coup d'État n'a jamais été le souhait de quelqu'un, mais il intervient chaque fois quand le pays est menacé même dans son existence. Donc il faudrait qu'ici, on mette l'accent sur la bonne gouvernance. Tant que les dirigeants ne se comporteront pas bien, des coups d'État, vous-même on l'a dit, c'est vrai, dans le cas de IB, dans le cas d'espèce, on ne parle pas de coup d'État, on a dit démission du président de la République. C'est vrai, même s'il y a, il y a été contraint d'une certaine façon. Mais je crois que c'est salutaire parce que ça permet au pays de retrouver une certaine stabilité, au moins sur le plan institutionnel, sur le plan politique.
Job, et socialement, je dirais. Le peuple ne peut pas accepter le pardon de ces putschistes-là. Donc pour vous, le peuple va accepter ce pardon?
Non, quand vous sortez...
Le peuple a déjà accepté, selon
non,
vous.
On ne peut pas dire que le peuple a accepté. Il y a des gens qui sont là. Et c'est les gens du CNT qui sont en train de jouer le rôle des représentants du Parlement. Donc on a parlé d'absence de Parlement, je suis parfaitement d'accord, mais le CNT qui est là, il est en train de jouer tous les rôles qu'un Parlement régulier joue. Donc à partir de ce moment-là, tous les actes qu'il pose doivent être entérinés de fait par le peuple. Ça, c'est mon point de vue. Donc encore une fois, la loi d'amnistie prise en faveur des événements du 18 août et du 24 mai se justifie largement parce qu'elle elle vient remercier des gens, des patriotes, qui ont risqué leur vie en son temps pour sauver le peuple. Parce que sans cette intervention, on n'en serait pas là aujourd'hui.
Des partis politiques estiment que le CNT n'a pas la légitimité d'accorder un pardon aux militaires à la place du peuple, alors que des organisations de la société civile, comme votre association, saluent cette amnistie. Suivons donc ce compte-rendu de Mamadou Samassiko.
C'est un non-événement pour nous, estime la Cour d'âme de Ousseini Amiens Guindo. Pour ce parti membre de Djigakoura, c'est au peuple d'accorder une amnistie par le CNT. Alassane Abba, secrétaire général de la Cour d'âme.
Le CNT tel qu'il est là-bas, c'est vraiment les auteurs du coup d'État qui l'ont mis en place. Ils n'ont aucune légitimité pour amnistier. Si ces gens n'ont rien à se reprocher, il faut laisser les gens auxquels revient le pouvoir d'amnistier un président élu à une assemblée nationale procéder à ça. Faire coup d'État, venir s'auto-amnistier, refaire coup d'État, je crois qu'on doit sortir de ça.
Pour la coordination des associations et regroupements de la société civile CARSOC, cette amnistie est la bienvenue. Parce que les militaires n'ont fait que parachever le soulèvement du peuple contre le régime d'Ibeka. Docteur Adama Traoré, président de la CARSOC.
Il a l'effort de la société civile du Mali pour mettre fin à un régime. Donc, parler du coup d'État dans ce sens-là, n'est-ce pas besoin d'achèvement, n'est-ce pas de l'effort de la société civile. J'alerte à cette histoire des initiés, des militaires qui ont fait ça.
Rappelons que lors de son intervention hier devant les membres du CNT, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a fait savoir que l'objectif de cette amnistie est de permettre aux auteurs des deux putschs de tranquillement s'occuper de leur mission.
La CODEM estime que cette amnistie est un non-événement. Êtes-vous d'avis avec lui, Fouseni Diop?
C'est ce que j'ai dit au départ. En fait, je pense qu'il faut qu'on sorte un peu des terminologies où, voilà, parachever, voilà, la souffrance, les notions de peuple, tout ça. Vous savez, le peuple, c'est un ensemble. Hein. Une partie, une portion de la population ne peut pas s'arroger de cette notion-là pour s'ériger en peuple. Voilà, moi, je pense que ce qui a été dit, c'est largement cela. Ce CNT qui est mis en place, on sait comment ce CNT a été mis en place. Le décret même qui montrait un peu l'organisation de ce CNT a été violé. Donc du coup, on ne peut pas parler de ça. On parle aussi du fait qu'on trouve en cela une légitimité ou encore une justification parce que la souffrance des Maliens a été abrégée. Vous savez, nous sommes dans la situation depuis le 18 août à aujourd'hui, la souffrance des Maliens continue. L'insécurité sévit dans nos régions, les attaques, ça continue, les villages sont massacrés jusqu'à présent, ou du point de vue économique, le Malien lambda souffre énormément. Donc du coup, aujourd'hui, certes, le régime d'Ibeka est tombé, mais les Maliens vivent dans le statu quo. Et ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, nous voyons que la transition qui s'est fixée 18 mois pour pouvoir faire des réformes et aller vers des élections, nous pataugeons jusqu'à présent. On a fait 9 mois dans les va-et-vient qui ne passent pas. Donc du coup,
La CODEM estime que le CNT n'a pas cette légitimité de pardonner. Oui. Donc vous estimez
Pour moi, c'est un non-événement. Parce que du fait qu'aujourd'hui, que ces auteurs-là sachent que même après, et que nous ayons des élections, qu'un président soit élu démocratiquement, on peut revenir les rechercher. Parce que, c'est ce que j'ai dit, la Constitution qui est la norme supérieure est au-dessus de toutes les lois. Donc, pour moi, elle prime sur cette loi-là. Et que du fait que les Maliens, dans l'avènement de la démocratie, ont vraiment condamné et ont dit qu'un coup d'État est imprescriptible. Voilà pourquoi j'ai dit que nous sommes dans une dynamique où le peuple ne va pas leur pardonner. Quel qu'en soit Alpha, tant qu'ils seront vivants, qu'ils sachent qu'ils seront inquiétés un jour.
Touré, certains membres du CNT qui ont rejeté cette loi ont déclaré, je cite, « Les lois d'amnistie sont antidémocratiques et une prime à l'impunité. » Est-ce une prime à l'impunité?
Tout à fait. C'est un encouragement à perpétrer d'autres crimes du type, ça serait un cycle infernal. Mais s'il y avait des sanctions, d'autres ne seraient pas tentés d'aller dans l'aventure. Au-delà de cela, je pense que nous sommes dans un débat où il y a une interprétation à l'envi et à l'envers de la situation. Déjà, d'une part, il est admis qu'il n'y a pas eu de coup d'État. Donc, s'il n'y a pas eu de coup d'État, pourquoi amnistier un coup d'État ? Comme je l'ai dit, l'amnistie ne vise pas, ne couvre pas le coup d'État, vu que déjà le CNSP lui-même n'a pas admis le coup d'État. Ça, c'est un premier constat. Le coup d'État, nous le savons tous, ça a été perpétré. Eux, ils ont donné leur version de l'histoire. Maintenant, qu'en est-il de la version réelle? Une infraction en droit pénal, elle se constate par trois éléments essentiels. Les éléments constitutifs, c'est-à-dire l'élément légal, une loi qui encadre, qui punit la dite infraction, nous sommes en coup d'État, donc la loi punit, le code pénal prévoit une loi qui punit le coup d'État.
Ça, quel c'est... type de punition?
C'est un crime imprescriptible. C'est des peines extrêmement lourdes qui sont dedans. La perpétuité. Vous voyez. Donc maintenant, l'élément constitutif légal est là. L'élément moral, l'intention de le faire était là. Parce qu'on a vu des militaires aller chez Ibeka, le prendre, l'amener à Kati. L'élément matériel, on peut supposer que cela aussi existe. Ils n'étaient pas allés à main nue, ils étaient armés. Donc, au regard de ça, l'infraction est constituée, même si elle est niée. Ça, c'est leur version. Qu'en sera-t-il de la version d'un juge? Il y aura problème. C'est pourquoi moi, je dis que la loi d'amnistie ne couvre pas le coup d'État. Il y a eu d'autres infractions mineures à côté. Par exemple, trouble à l'ordre public, ça peut couvrir ça. Du moment où ils n'ont pas eu le courage d'assumer le coup d'État, on ne peut pas parler de loi d'amnistie couvrant le coup d'État. On est bien d'accord. Donc c'est pourquoi je dis que demain ou après-demain, si le pouvoir change, ils peuvent répondre à ce coup d'État. Parce qu'ils n'ont pas eu le courage de nommer explicitement les infractions.
Cette amnistie ne risque-t-elle pas de légitimer le coup d'État dans le pays?
Tout à fait. Nous sommes à la troisième de 2012 à maintenant. Sanogo a sauté le verrou avec cette loi d'amnistie. Du coup, ça a donné des idées au CNSP. CNSP qui, parmi ses composants, il y en a qui étaient avec Sanogo. Donc si Sanogo avait été frappé durement, est-ce que eux, ils allaient être tentés de revenir à la charge? Non. Nous sommes dans une situation où on veut tirer le drap en piétinant les règles, en piétinant la loi. Et c'est très dangereux dans la République.
Monsieur Sidibé, vous défendez que cette amnistie est légale. Alors, en quoi cette amnistie est-elle légale pour le bien de l'État?
Je dis, cette loi d'amnistie, encore une fois, vient à propos. C'est quelque chose qui est même venu un peu en retard de mon point de vue. C'est pas maintenant qu'on va parler de respecter les règles démocratiques. C'est parce que les règles démocratiques ont été piétinées. Et depuis la base que nous sommes arrivés à ce coup d'État-là, à ce coup d'État, entre guillemets. Parce qu'on ne parle pas de coup d'État du côté du CNT. Mais ce qui est réel, c'est qu'on parle de président, d'un président démocratiquement élu et destitué. Est-ce que le président Ibeka a été élu sur des bases saines? Toute la crise qu'on a connue est partie de là. Quand on se fait mal élire, on ne peut pas se cacher derrière la démocratie pour berner le peuple. C'est ce qui justifie ce soulèvement du M5 et c'est ce qui a conduit à la chute du régime de Ibeka. Donc, avant que l'on s'attaque à l'effet, il faut voir la cause. C'est parce que les choses ont été très mal faites à un moment donné, des élections mal organisées, des résultats tripatouillés, proclamés, qui n'ont pas eu l'adhésion du peuple et qui a poussé ce peuple dans la rue. Tout est parti de là.
De la suite de Ibeka à aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un changement?
Non, ce n'est pas par un coup de baguette magique que les choses changent du jour au lendemain. Mais Ibeka a eu 7 ans de gestion de ce pays-là. Il a été à la gestion de ce pays-là pendant 7 ans. Ce que lui n'a pas pu faire, on ne va pas demander.
Mais nous sommes à une année de gestion.
Je sais, mais ceux qui sont venus il y a un an ou moins d'un an, on ne va pas leur demander de faire plus que celui qui était là pendant 7 ans. Ça, c'est aussi une réalité quand même. Ils sont en train quand même de poser des bases. Qu'on le veuille ou pas, des choses sont en train de bouger. Dans le bon sens, certainement, mais pas dans le sens que tout le monde veut. Je sais qu'il y a des gens qui ne vont jamais rien apprécier dans ce que ces autorités-là feront. Hein. Mais dans tous les cas, nous estimons que leur venue au pouvoir a servi à quelque chose parce que ça a évité un chaos certain à notre pays. Maintenant, les mécanismes qu'on est en train de mettre en place, la refondation en cours, les nouvelles dispositions électorales, les nouvelles lois en rapport avec les crimes économiques. Je crois que tout ceci-là va nous permettre de sortir de la grande confusion que les démocrates, les soi-disant démocrates, ont entretenu pendant 7 ans, 30 ans presque, et pendant lesquels 30 ans, ils n'ont fait que berner le peuple.
Donc démocratie, c'est un fait. Vous encouragez la prise du pouvoir par la force des armes.
Non, je n'encourage pas. Je dis, mais cette prise du pouvoir par les armes intervient chaque fois quand des choses sont mal faites. En 91, le premier coup d'État, c'était en 91, après bien entendu celui de Moussa Traoré. Mais en 91, ce n'est pas le même peuple qui est allé dans la rue pour demander que Moussa tombe parce qu'on l'avait taxé de dictateur. C'est ça? Moussa est parti. Les démocrates sont venus. Et ça fait comme une histoire de fête. Tout le monde était très heureux de voir finalement les démocrates arriver au pouvoir. Ceux qui avaient tout fustigé, ceux qui avaient tout critiqué, ceux qui avaient tout combattu de Moussa, ceux-ci sont arrivés au pouvoir. Qu'est-ce qu'on a vu? 10 ans, Alpha. ATT, 10 ans, il a fait un léger mieux quand même. Quoi qu'on dise, ATT a été un bâtisseur parce qu'il a fait développer le pays sur plusieurs plans. Mais les 10 ans de ATT et de Alpha, je pense que tout l'échec de l'ère démocratique est parti de là. Parce que, comme on dit, on peut dire à ce niveau, la montagne a accouché d'une souris. Le peuple avait tellement placé son espoir en ces gens-là à l'époque que s'ils avaient joué franc jeu, les choses allaient être sur le rail. Et personne n'aurait pu venir après détourner ça. Mais ils ont mal fait les choses. Ils se sont remplis les poches. Les premiers milliardaires, sur la base des gabegies, des vols, des malversations, c'était avec ce premier régime démocratiquement installé là. Et tout est parti de là. Et ça a été, maintenant, quand on parle de précédent, ça, c'est un précédent fâcheux qui a poussé les autres aussi à continuer la même logique. On peut tripatuer impunément les résultats des élections pour se hisser au pouvoir, sans conséquence. Et tant que ATT l'a dit, je le rappelle, il dit les garde-fous contre les coups d'État, c'est une très bonne chose, mais pourvu qu'il n'y ait pas de fous. Pourvu qu'il n'y ait pas de fous. Donc si on veut éviter les coups d'État, une fois, on n'encourage pas les coups d'État parce que ce n'est jamais une bonne chose pour un pays, mais faisons en sorte que les conditions qui concourent à la commission d'un coup d'État ne surviennent pas. C'est aussi facile.
Est-ce qu'il y a des conditions qui empêchent ces coups d'État-là?
Oui, en fait, je pense que le débat ne se pose pas au niveau du fait qu'on doit s'attaquer aux causes structurelles qui plongent un peu le pays dans cette situation d'instabilité. Mais je pense qu'on doit aller au-delà et se poser les vraies questions. Vous savez, les coups d'État sont toujours les solutions les plus faciles. Et on a vu à chaque fois que ça intervient, comme je l'ai dit, on n'a pas de lendemain meilleur. Vous savez, sans pour autant prendre l'exemple ou encore faire une comparaison, le mouvement Gilets jaunes de la France était aussi très virulent. Et on a vu aussi une contestation farouche du régime de Macron. Mais pour autant, l'armée n'a pas renversé le président. Donc du coup, il faut qu'on arrête de prendre les raccourcis. Aussi, faire comme si l'armée est clean et que voilà, l'armée va s'imposer comme régulateur du jeu démocratique, il faut que cela aussi cesse. Si nous regardons depuis l'indépendance du Mali, 1960, après juste la gestion, le coup d'État de 68, l'armée a fait une gestion. Moussa Traoré, c'était de l'armée. Il a fait 27 ans de dure gestion du pays. 23, d'accord. Il a fait 23 ans. Après l'avènement de la démocratie en 91, après le régime d'Alpha, il y a aussi l'avènement d'un autre militaire, le général Amadou Toumani Touré, qui a aussi fait à peu près 10 ans. Donc, du coup, cumuler ces 10 ans plus les 23 ans, ça fait 33 ans. N'est-ce pas? 33 ans, et vous occultez ça depuis l'indépendance du Mali. Les militaires ont eu le pouvoir et l'ont géré aussi. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, aujourd'hui, je pense que l'armée doit être républicaine. L'armée n'est pas là pour jouer dans la démocratie en tant qu'acteur exerçant le pouvoir. L'armée est là, c'est pour sauvegarder l'intégrité du territoire et faire en sorte que les personnes et leurs biens soient sauvegardés. Voilà son rôle. Tant que l'armée va sortir de là, nous allons déstabiliser les institutions et nous allons retourner au même cycle. Donc du coup, aujourd'hui, dire que voilà, nous avons vu les contestations par rapport aux législatives ou encore aux présidentielles, je pense qu'il faut s'attaquer aux causes réelles. C'est-à-dire, lorsque nous mettons en place des règles et que dans l'application, nous voyons que les règles ont des problèmes, ayons le courage d'aller vers des réformes. Aujourd'hui, lorsqu'on a quitté les présidentielles de 2013 ou encore de 2018, on a cesser d'alerter en tant que société civile. Attention, attention, si nous devons aller à d'autres élections, il est important aujourd'hui de changer les règles de base parce que nous pensons que la loi électorale que le Mali a montré ses manquements. Mais cela n'a pas été fait. Et aujourd'hui, nous pensons qu'aujourd'hui, la violation aussi de la Constitution, c'est seulement certaines règles. Mais à chaque fois qu'on a prorogé le mandat des députés, à chaque fois qu'on a prorogé le mandat des élus au niveau des élus communaux, nous avons violé la Constitution. Donc du coup, la démocratie est là, c'est des règles que nous mettons en place, mais que nous avons le devoir de respecter ces règles. Mais à chaque fois, comme il l'a dit, on va fouler ces règles-là au pied, nous allons donner des précédents. Aujourd'hui, les coups d'État en 2012, après juste cela, En moins d'une année, on a vu deux coups d'État. Qu'est-ce qui nous présage que demain, nous n'allons pas voir? Aujourd'hui, les gens qui sont aux affaires ont participé dans la gestion de Ibeka. Qu'en est-il de leur responsabilité? Mais on fait comme si c'est des gens clean aujourd'hui qui viennent s'ériger en prince du jour pour dire au peuple, voilà, vos problèmes sont résolus. Je pense que c'est trop facile.
Certains membres du CNT ont rejeté cette loi d'amnistie. Est-ce que ce rejet n'est-il pas contradictoire avec leur présence au CNT vu qu'ils sont choisis par ces mêmes militaires.
Oui, mais je pense qu'au-delà du choix, si ils ont été choisis, je pense qu'ils doivent regarder le peuple. Parce qu'ils sont là, certes, sous la base d'un choix, mais ils doivent regarder le peuple en face et trancher du point de vue de leur conviction, du fait du bien de leur... Et moi, je salue ces personnes-là qui ont eu le courage de s'opposer à cette loi. Parce que comme je l'ai dit, nous allons ouvrir une brèche pour donner encore des précédents. Aujourd'hui, rien n'est garanti que demain, on ne va pas avoir un autre coup d'État. Parce que nous sommes en train de passer à l'impunité d'année en année à cause de ces pushs répétés qui ne sont pas punis.
Touré, est-ce que la position de certains membres du CNT qui n'ont pas voté cette loi est salutaire?
Elle est dans la mesure où on peut laisser entendre qu'ils commencent à comprendre qu'ils ne sont pas des représentants du peuple en tant que tel, parce que des membres du CNT qui ont été choisis par Assimi, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et donc qui ne représentent aucune circonscription, ne peuvent accorder de pardon au nom du peuple malien. Qu'on se dise clairement les choses. Moi, j'aurais aimé, je ne soutiens pas les coups d'État, j'aurais aimé, tout le problème se pose à un niveau, j'aurais aimé qu'ils assument leur coup d'État. En assumant le coup d'État, ils prennent les choses en main, ils dissoutent la Constitution. Et là, c'est un boulevard ouvert à tout. Maintenant, lorsque on reviendra à un retour à la normale, on peut changer la donne en demandant à une assemblée légitime de donner un quitus pour l'amnistie. Mais allant comme ça, en jouant ce jeu de malice, je me dis que c'est mal fait, c'est mal réfléchi.
Le ministre de la Justice, Mahamadou Kassogué, un ancien procureur du pôle économique et financier, qui a défendu cette loi, a considéré que les événements du 18 août 2020 et du 24 mai 2021 sont des actes salutaires pour éviter une effusion de sang et une guerre civile.
Bon, moi, je vais même pas aller dans ce... Parce que les gens disent coup d'État. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est un coup d'État romantique, un arrangement, ni plus ni moins. Un coup d'État intervient, personne n'est arrêté pour ses responsabilités dans l'effritement de la nation, pour la mauvaise gouvernance. On doit se poser des questions. Sommes-nous dans un coup d'État ou un arrangement? Moi, je me dis que nous sommes dans un arrangement, un jeu de passe-passe. Ces militaires n'ont pas fait de coup d'État en tant que tel. C'est un deal entre eux et les anciens dignitaires du pouvoir. Parce que jusqu'à preuve du contraire, personne n'est mis à l'arrêt pour avoir agi hier contre ce peuple et les intérêts de ce peuple. Donc, partant de ce postulat, nous sommes dans une posture où le peuple est enfariné. C'est-à-dire, on trompe le peuple. On veut montrer au peuple, ceux-là n'ont pas bien fait, nous sommes la solution. Mais si vous voulez être la solution, on ne peut pas laisser des gens qui ont causé du tort à ce pays pendant des années vaquer à leurs occupations comme si rien n'a été fait et se prétendre sauveur de la même patrie. Ça ne colle pas. Il y a toujours un flottement dans les actes, des incompris, des non-dits qui élèvent plus de suspicion, de méfiance. Moi, personnellement, j'opterais pour un arrangement et un coup d'État. Très sincèrement.
Sidi B, le ministre a également annoncé des mesures de réparation et d'indemnisation. De quelle réparation s'agit-il?
Bon, dans des cas pareils,
les victimes liées à ces événements.
Oui, dans des cas pareils, il y a toujours des victimes, comme on dit, des victimes collatérales. Donc, quand l'autorité centrale décide de se retourner pour regarder ces victimes-là, je pense que c'est de bonne guerre. C'est justice, quelque part. Donc, nous ne pouvons que nous en réjouir et soutenir cette initiative qui va permettre de soulager certains qui ont perdu des êtres chers dans ces mouvements-là. Évidemment, pas le coup d'État, hein, mais les événements qui ont conduit à ce coup d'État-là. Donc la loi d'amnistie, je crois, elle doit couvrir tous ces cas-là. Donc si c'est ce que le ministre a voulu nous dire par ces propos-là, je pense que c'est salutaire. Nous ne pouvons que nous en réjouir au sein de notre plateforme Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire.
L'État a-t-il le moyen d'indemniser toutes les victimes de ces manifestations qui ont procédé à l'arrestation de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, d'autant plus qu'on sait que beaucoup de biens privés ont été saccagés, des journalistes de l'ORTM qui ont vu leurs véhicules incendiés, qui attendent toujours une réparation.
Bon, si un inventaire exhaustif de tous ces dégâts est véritablement fait, je pense que l'État est l'État, c'est le dernier recours là. Il dispose de tous les ressorts, de tous les moyens possibles pour venir en aide à ces gens-là, d'une façon ou d'une autre. Donc si c'est l'État qui le décide, moi je pense que nous laissons faire. Et je pense qu'ils en ont les moyens. Et c'est justice quelque part.
Cette indemnisation de l'État proposée par le ministre de la Justice est pour vous a un sens?
C'est ce que j'ai dit. En fait, le porteur même de cette loi au niveau de CNT, on retourne quelques mois avant seulement, avait introduit encore une plainte contre certains de nos compatriotes pour déstabilisation de ce même État ou comme tentative de coup d'État. Et le voir encore érigé aujourd'hui comme porteur de projet, il n'y a pas de logique. C'est ce que j'ai dit, soyons cohérents dans ce que nous faisons. Donc du coup, dire que les gens aussi seront indemnisés, voilà, l'État, c'est à l'État de prendre ses responsabilités, parce que moi j'ai dit, c'est l'État le premier garant de par rapport à la protection des personnes et de leurs biens. Et lorsque il y a atteinte à cela, et que c'est par la faute ou encore les faiblesses de ce même État qu'il faille prendre des mesures pour indemniser, je pense qu'il n'y a pas de problème à cela. Mais qu'ils sachent que, voilà, les victimes aussi sont regardants, mais d'autres aussi ne vont pas rentrer dans cette histoire d'indemnisation. Les gens qui ont perdu des êtres aussi, c'est pas en les indemnisant qu'on va les ramener leurs proches. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai dit que c'est une solution facile, qu'on veut seulement jouer, voilà, pour apaiser les choses, mais qu'après ça peut encore soulever d'autres interrogations ou d'autres problèmes.
Des organisations sous-régionales à chaque poste annoncent des sanctions, mais sans résultat au final. Ces organisations ont-elles montré leurs limites dans leurs décisions?
Oui, bon, je pense que par rapport à cela, aujourd'hui, par rapport aux instruments juridiques qui existent au niveau sous-régional, il est important aujourd'hui de s'interroger par rapport aux mécanismes mis en place pour pouvoir éviter cela. Voilà pourquoi j'ai dit que, au-delà des condamnations en tant que démocrate par rapport au putsch, nous devons aujourd'hui s'attaquer aux problèmes de gouvernance dans nos différents États. Parce que, vous savez, jusqu'à présent, les populations ont besoin des services sociaux de base. Et tant que nous n'allons pas aller vers une gouvernance gouvernance économique plus vertueuse, avec une gouvernance au niveau central plus vertueuse par rapport à la gestion, la lutte contre la corruption endémique dans notre système, ça va être un problème. Donc du coup, il faut mettre en place des mécanismes de sanctions assez adaptés pour pouvoir empêcher cela, mais faire en sorte aussi de contraindre les États à plus de gouvernance vertueuse dans les différents États. Sans quoi, je pense qu'on va tout le temps sortir avec la CEDEAO qui va condamner, mais ce sera tout le temps le médecin après la mort, parce qu'en amont, il y a beaucoup de choses qui devraient être faites qui ne sont pas faites. Donc du coup, certes, il s'agira de voir si les élections sont bien organisées, mais nous devons aussi porter aujourd'hui un regard par rapport à la gestion en matière de gouvernance au niveau des différents États, de qu'est-ce que nos présidents font par rapport à tout cela. Donc je pense que si cette analyse est faite, je pense que le délai communiqué aussi de la CEDEAO leur montre qu'ils sont aujourd'hui dans cette réflexion de pouvoir voir les mécanismes réels pour pouvoir trouver des solutions réelles aux problèmes que vivent les populations au niveau de nos pays.
Ibrahim, faut-il sortir de cette déclaration au profit de la répression?
Tout à fait. Il faudra que ça cesse à un moment donné. Il faudra que chacun s'assume, que les choses se fassent comme c'est prévu. C'est le manque de sérieux, qui nous pousse tout le temps vers ces carnivals-là. C'est parce que X ou Y ne s'assume pas, ne joue pas pleinement son rôle comme il le faut, que nous tombons dans ces travers. Donc il faudra à un moment donné que le marteau, on le sort et qu'on tape fort avec. Maintenant, au-delà de ça, question et réparation. Et cette loi d'amnistie, la période qu'elle couvre, parce qu'il y a eu des actes avant le 18, d'où j'avais qualifié la loi d'imprécis. Est-ce que cette loi couvre les événements du 10, 11 et 12? Est-ce que les victimes des événements du 10, 11, 12 seront dédommagées plutôt? Voilà toute la grande question. Est-ce que si les uns sont amnistiés pour crime, d'autres ne le sont pas, est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures? Voilà des questions, des craintes, des boulevards ouverts à beaucoup de choses. Au-delà de ça, je me dis aussi que si réellement cette loi couvre les événements du 10, 11, 12, le commandant Forsat croupit toujours en prison, si j'ai bonne mémoire.
C'est ça.
Donc ça veut dire que jusque-là, on n'arrive pas à bien ficeler la chose. Jusque-là, on est dans la malice. Jusque-là,
au-delà de tous ces questionnements, à comment éviter les coups d'État dans les...
Bon, les coups d'État, pour les éviter, moi, je monte au niveau communautaire, la CEDEAO. Il ne faut pas se cacher la face. Hein. Aujourd'hui, nous assistons à des dérives de nos dirigeants. Et la CEDEAO arbitre, qui est là, qui trace les directives, laisse certains chefs d'État faire ce qu'ils veulent, au détriment des populations. Donc, elle n'est plus cette CEDEAO des peuples, mais CEDEAO des chefs d'État. Il faudra revoir les textes de la CEDEAO pour voir comment, si un président ne se comporte pas bien, comment le déposer sans passer par les coups d'État. Il faudra réfléchir à ce mécanisme-là. Sinon, si cela n'est pas fait, nous allons vivre des coups d'État répétitifs.
D'accord. Monsieur Sidibé, quelle solution pour ces coups d'État?
Bon, je rejoins Monsieur Touré. Évidemment, je dis encore une fois, un coup d'État n'est pas souhaitable dans un pays. Dans un pays normal, un coup d'État n'est jamais une solution. Mais je dis encore une fois, ces coups d'État surviennent à chaque fois que les gouvernants faillissent. Donc c'est à eux de se remettre en cause. Et la CEDEAO, comme il l'a dit, qui est là pour jeter un regard sur tout ça là, doit pouvoir jouer en amont et non venir en pompier. Donc je pense qu'il y a lieu de mettre l'accent sur la bonne gouvernance. Tant que les choses continueront à être mal gérées, comme ce fut toujours le cas, on ne peut pas s'empêcher de faire des coups d'État, même si, encore une fois, ce n'est pas quelque chose de souhaitable dans un pays normal.
en 30 secondes la solution.
Oui, voilà, je pense que c'est ça. Il faut vraiment regarder vraiment en profondeur les problèmes et pouvoir les gérer et vraiment aller vraiment s'attaquer à cette mauvaise gouvernance-là et vraiment faire en sorte aussi que la lutte contre la corruption soit une réalité et vraiment mettre aussi des réformes en place. Je pense qu'au-delà, au niveau sous-régional, certes, il faut faire des choses, mais je pense qu'il faut aussi au niveau de nos textes, que ce soit la constitution ou même encore le cadre légal au niveau national, mettre en place des dispositifs pour que plus jamais le Mali ne puisse connaître un coup d'État, parce que sachez que le pouce fait tout le temps reculer un pays.
Mettre en place des dispositions pour empêcher ce coup d'État, c'est sur ce mot de Fousseyni Diop que se referme ce débat qui réfléchissait sur le coup d'État au Mali. Pourquoi une loi d'amnistie en faveur des putschistes? Nous étions avec Cheikh Oumar Sidi B, vice-président du Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali. Fousseyni Diop, responsable programme gouvernance et engagement civique à l'AGICAD. Ibrahim Ben Mamata Touré, juriste. À la régie vidéo, vous avez gagné Kanté. À la mise en onde, Seydou Dawa. À la coordination, Sekou Gadigo. Je suis Imran Akilo Maïga, invité auditeur, téléspectateur. Merci d'avoir suivi ce débat. À demain.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Beri.
Halou Gmoun.
Chienne Beri. Sigi Kafoba.